droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à votre magazine Mon droit au quotidien. Pour le numéro de ce jour, nous avons décidé de nous intéresser aux droits des personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Chaque année, vous l'aurez noté, le monde entier célèbre la Journée mondiale de lutte contre le sida. Ces personnes ont aussi des droits qu'il faut défendre. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, selon les données de Spectrum 2023, la Côte d'Ivoire compte 407 595 personnes vivant avec le VIH, tout âge confondu, avec une prévalence de 1,82% chez les 15 à 49 ans. Raison pour laquelle, dans le cadre de ce numéro, nous avons décidé de recevoir comme invité une personne qui appartient à une structure qui œuvre dans le domaine de la lutte contre le VIH-SIDA depuis de longues années, une ONG en l'occurrence, et qui œuvre aussi pour la défense de ces personnes. Dans quelques instants, je vous la présenterai. Pour l'instant, je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue dans votre espace préféré, Mon droit au quotidien sur Radio de la Paix.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Retour donc en studio. Je vais à présent vous présenter à mes auditrices et auditeurs fidèles de Mon droit au quotidien. Mon invité du jour, c'est une dame. Elle se nomme Madame Kwaku, épouse Nguessan Aya Priscilla. Elle est chargée de mission plaidoyer à l'ONG Espace Confiance, mais aussi et surtout, raison pour laquelle nous l'avons choisie, elle est juriste, spécialiste des questions des droits humains, plaidoyer et du genre. Madame Kwaku, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de Mon droit au quotidien sur Radio de la Paix.
C'est nous qui vous remercions.
Comme je l'indiquais dans ton introduction, nous avons donc décidé pour ce numéro de nous intéresser aux droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. En introduction, nous l'indiquions, selon donc les dernières données, celles de Spectrum 2023, la Côte d'Ivoire compte 407 595 personnes vivant avec le VIH-SIDA. C'est bien cela?
Oui, c'est bien cela.
Et vous qui travaillez donc dans le domaine depuis longtemps, c'est des chiffres qui sont en baisse ou en augmentation?
Avant de répondre, je voudrais d'abord présenter l'ONG Espace Confiance.
Je vous en prie.
Espace Confiance est une ONG de santé et de développement spécialisée dans la lutte contre le VIH depuis 2004. Nous sommes maintenant à notre 20e année et Espace Confiance fait de la prévention, du traitement et de la prise en charge au VIH. Et depuis 2015, nous avons mis en place des actions de plaidoyer pour l'amélioration des droits des personnes vulnérables au VIH. Et ces chiffres de 407 000 personnes vivant avec le VIH évoqués sont à prendre en considération parce que nous estimons que déjà une personne vivant avec le VIH en est de trop. Donc pour nous, on devait pouvoir arriver à la génération zéro VIH. Donc déjà 400 personnes, pour nous, c'est une situation alarmante à prendre en compte.
D'accord, 400 000 personnes.
Hein. 400 000 voilà, personnes.
Juste pour préciser, oui. Voilà. Mais disons que depuis 85, hein, où le premier cas donc, de personnes atteintes du VIH a été découvert en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, ce chiffre est en baisse, même s'il est notoire.
Oui, avec les efforts qui sont mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et les organisations de la société civile, nous avons quand même une réduction des nouvelles infections. Mais le problème reste encore important parce que les personnes vivant avec le VIH font face à plusieurs inégalités, à plusieurs injustices qui font qu'aujourd'hui, des personnes ont toujours peur de se faire dépister. Donc pour nous, il y a encore du travail à faire.
Raison pour laquelle nous vous recevons. D'ailleurs, Madame Kwaku est donc de façon spécifique, nous allons nous intéresser aux droits de ces personnes parce que, comme vous l'indiquiez, elles font face à des inégalités, des injustices aussi qui méritent que nous en parlions donc dans l'espace Mon droit au quotidien sur Radio de la Paix. Je voudrais juste indiquer pour celles ou ceux qui viendraient de nous prendre en marche que vous êtes à l'écoute donc de votre magazine préféré Mon droit au quotidien sur Radio de la Paix. Nous parlons donc aujourd'hui des droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. Les derniers chiffres indiquent 407 595 personnes. Et notre invitée se nomme Madame Kwaku, épouse Nguessan Aya Priscilla. Elle est chargée de mission plaidoyer à l'ONG Espace Confiance. Elle est juriste spécialiste des questions des droits humains, plaidoyer et du genre.
Mon droit au quotidien, votre magazine d'information pour connaître et comprendre vos droits et devoirs sur la fréquence de la paix.
Je reviens à vous, Madame Kwaku. Alors, voyons ensemble maintenant pour entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, de quelle protection juridique bénéficient les personnes vivant avec le VIH-SIDA aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, toutes les personnes vivant avec le VIH bénéficient de toutes les dispositions juridiques existantes. Parce que, comme vous le savez, la loi a un caractère général et impersonnel. Mais de manière spéciale, il y a une loi qui leur a été dédiée, qui est notamment la loi numéro 2014-430 du 14 juillet 2014, portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le SIDA. Et c'est une loi qui couvre trois aspects clés, notamment la prévention, la protection et la répression liée au VIH. Que devons-nous entendre par prévention? La prévention prend en compte un aspect clé qui est le dépistage. Et le dépistage au VIH répond à des critères bien définis par la loi, notamment un consentement libre et éclairé. Le dépistage du VIH doit se faire de manière volontaire, avec un consentement libre et éclairé. Et aussi la question de la confidentialité. Lorsqu'une personne est dépistée, si son résultat est positif, l'acteur du dépistage est tenu par la loi à garder le résultat de manière confidentielle.
On va arriver sur ces détails, hein, Madame Kouakou. Là, vous détaillez un peu. On va donc noter que cette loi, donc, je rappelle, loi numéro 2014-430 du 14 juillet 2014, portant donc régime, comme l'indiqué, de prévention, protection et répression contre le VIH et le SIDA en Côte d'Ivoire, met en évidence trois volets principaux, savoir la prévention, la protection et la répression. Nous allons y arriver, mais déjà, je voulais qu'on voit avec vous, hein. Alors, pourquoi c'était d'abord nécessaire ou important que la Côte d'Ivoire se dote d'une telle loi?
À la table de mes propos, j'ai dit que la loi a un caractère général et impersonnel. Mais les personnes vivant avec le VIH font face à des inégalités dues à leur statut sérologique. Nous pouvons assister à des licenciements dus au statut sérologique. Nous pouvons assister à des ruptures familiales dues à l'annonce du statut sérologique. Au regard de toutes ces inégalités, on s'est dit qu'il était important de pouvoir mettre en place cette loi spéciale qui allait renforcer les droits de la personne vivant avec le VIH, dont la maladie a rendu vulnérable. Donc c'était un peu dans cet esprit.
Alors tout à l'heure, vous avez commencé à en parler, on va voir ça maintenant un peu en détail. Donc trois axes principaux, prévention, protection, répression. Alors de façon générale, quelles sont les grandes avancées qu'offre cette loi donc dans la promotion et la défense des droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA? Si on prend d'abord le point de la prévention, et puis après nous passerons à la protection, puis à la répression. D'abord, dans le domaine de la prévention.
Dans le domaine de la prévention, comme je le disais, il y a un aspect clé qui est le dépistage. Parce que qui parle de prévention parle des moyens qui nous permettront d'éviter de contracter la maladie. Et parmi ces moyens, il y a le dépistage. Il est important de connaître son statut sérologique pour savoir quel comportement sexuel avoir ou quelles précautions sexuelles prendre. Et le dépistage est encadré dans ce volet de cette loi avec des critères bien définis, notamment le consentement libre et éclairé. Le dépistage, il est volontaire. Mais il faut pouvoir amener la personne à se faire dépister par des techniques d'approche qui peuvent être communautaires, qui peuvent être psychologiques pour préparer la personne au dépistage. Et après le dépistage, les résultats du dépistage doivent être gardés de manière confidentielle et ne doivent être diffusés que dans le cadre de la prise en charge de la personne concernée. Et voici un peu les dispositions clés qui sont mises en avant dans le cadre de la prévention.
Et en ce qui concerne la protection?
Dans le cadre de la protection, ici, la loi met l'accent sur la protection des personnes vivant avec le VIH. Vous voyez que dans la prévention, la loi s'intéresse à tout venant, mais dans la protection, on met l'accent sur la personne vivant avec le VIH qui connaît déjà son statut sérologique. Et entre autres protections, il y a l'accès au travail. Aujourd'hui, grâce à cette loi, on ne peut plus considérer un licenciement sur la base du statut sérologique comme tel.
Comme par le passé, au début, on pensait qu'une personne qui est séropositive dans le même espace peut-être professionnel libérée, peut-être vous contaminer ou tout ça. Allez-y, oui.
Oui, mais en fait, la protection des droits ne change pas forcément la perception des personnes.
D'accord.
Peut-être on va parler après de la perception. Mais ici, en parlant de protection, on parle des acquis, des avantages qu'une personne vivant avec le VIH pourrait avoir. Et je parlais justement de l'emploi. On avait constaté que des personnes vivant avec le VIH étaient licenciées à la suite de l'information liée à leur statut sérologique. Mmh. Quand l'employeur apprend que son employé est une personne vivant avec le VIH, automatiquement, il se permettait de licencier la personne.
Peut-être que ouais, la productivité de l'entreprise qui va être impactée.
Mais aujourd'hui, cette loi montre que la personne vivant avec le VIH peut travailler. Ça dépend du type de travail.
Okay.
Donc, un employeur ne peut pas utiliser ce motif pour licencier son employé. Et ça, pour nous, c'est une avancée. Et cette loi aussi protège les personnes vivant avec le VIH contre la stigmatisation et la discrimination sous toutes ses formes. Mmh. Et c'est là que je fais allusion à la perception. La stigmatisation qui est basée sur la perception d'une personne, le fait de pouvoir la criminaliser peut emmener la personne lambda à changer son regard vis-à-vis de la personne vivant avec le VIH.
C'est ça.
Ça, c'est au niveau de la protection.
C'est ça. Et en ce qui concerne la répression, les avancées aussi qu'on peut faire ressortir.
Ici, l'élément clé qui est mis en avant, c'est la transmission volontaire. Parce qu'il y a des personnes vivant avec le VIH qui peuvent être de mauvaise foi et vouloir transmettre le virus à d'autres personnes. Parfois, c'est par soif de vengeance, parce qu'elles auraient contracté la maladie dans des circonstances peu voulues. Mm-hmm. Donc, elles peuvent s'en vouloir et chercher à se venger. Et c'est dans ce sens que la transmission volontaire est criminalisée.
Quand vous dites criminaliser, ça peut conduire à la prison.
Oui, ça peut conduire à la prison, effectivement, si c'est prouvé.
Madame Kouakou, est-ce que vous pourrez nous indiquer ce que dit exactement donc, cette loi? Je rappelle hein, pour les auditrices et auditeurs, la loi numéro 2014-430 du 14 juillet 2014, portant donc régime de prévention, protection et répression contre le VIH et le SIDA. En ce qui concerne la transmission volontaire, qu'est-ce que la loi dit et quelle est la peine encourue d'un point de vue pénal? Allez-y, je vous en prie.
Au niveau de la transmission volontaire, il y a l'article 48 qui dit que est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans quiconque se sachant porteur du VIH entretient des relations sexuelles dans l'intention de le transmettre à autrui. Et la peine est celle de 5 à 20 ans si les relations sexuelles sont commises sans le consentement de la victime ou si elle est mineure ou majeure incapable. Donc, c'est pour dire que la transmission volontaire est punie de 5 à 10 ans ou de 5 à 20 ans en fonction des circonstances.
Oui, allez-y. Alors, puisque là, il est fait aussi... Oui, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose d'abord,
oui,
s'il vous plaît.
Oui, je veux dire qu'en dehors, en plus de la transmission volontaire qui est punie, il y a aussi d'autres infractions qui sont pénalisées, telles que la discrimination, qui est punie aussi de 3 à 12 mois et d'une amende de 20 000 à 1 million, quiconque commet à l'égard d'une personne une discrimination fondée sur sa séropositivité avéré ou présumé.
C'est intéressant donc d'avoir ces éléments de loi lorsque c'est partagé comme ça. Alors, tout à l'heure, en citant donc cet article-là, vous avez fait allusion au fait qu'il pourrait aussi avoir des relations sexuelles non consenties, sans consentement. Donc, ça s'appelle le cas, par exemple, d'un viol. Donc, ce qui laisserait entendre que toute personne victime d'un viol, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'un homme peut aussi être aussi violé, c'est bon de faire un test pour voir si...
Il n'a pas été contaminé.
C'est ça. Ça aussi, c'est important.
Oui. Et dans le protocole de prise en charge des cas de viol, il y a les contraceptifs d'urgence, mais il y a aussi le dépistage pour connaître le statut. Mais parfois, sur le champ, on ne peut pas avoir le statut sérologique. Donc, il est recommandé de refaire encore le test 3 mois après.
Donc, de façon concrète, si une personne s'est trouvée malheureusement violée, nous prenons le cas aujourd'hui, il faut qu'elle fasse le test aujourd'hui, dans le courant de la semaine.
Elle sera à l'hôpital.
D'accord.
Il y a un protocole qui est mis en place pour la prise en charge des cas de viol. Et dans ce protocole-là, il y aura un contraceptif d'urgence qui lui sera administré. Il y aura aussi le test qui sera effectué, mais il est recommandé de refaire le test trois mois après.
Voilà,
pour s'assurer qu'on est vraiment hors de danger.
Voilà, merci beaucoup, Madame Kouakou. Alors, aussi plus haut, lorsque nous parlions donc de la prévention, je voudrais revenir sur un point, la prévention. Vous avez parlé de consentement libre et éclairé. Ce serait bien d'expliciter encore le terme éclairé. À quel moment est-ce qu'on parle de consentement éclairé? Libre, ça s'entend. Je veux connaître mon statut sérologique, j'y vais. Éclairé, à quel moment, de façon pratique?
Le consentement éclairé voudrait dire que nous sommes capables de dire à la personne qu'elle pourrait être positive.
D'accord. Quand on dit nous, c'est le personnel médical.
Le personnel médical ou l'acteur communautaire.
D'accord.
Parce que le dépistage se fait aussi en communauté.
D'accord.
Donc, l'agent de santé communautaire qui va dépister son père ou le prestataire de santé qui fait le dépistage doit pouvoir informer la personne des conséquences pour dire qu'elle peut être positive. Mais si elle est positive, il y a le traitement qui est disponible qui peut lui garantir une vie normale. Donc, d'accord, il y a toutes ces informations à donner à la personne. Mais parfois, sur le terrain, on peut rencontrer des difficultés où le dépistage se fait sans donner ce type d'informations. Et c'est quand la personne est dépistée positive qu'on réfléchit à comment est-ce qu'on va lui annoncer son résultat.
Ça, c'est un peu plus compliqué.
Voilà.
Parce qu'il y a l'aspect psychologique aussi.
Effectivement. C'est pourquoi la loi parle d'éclairer.
Éclairer. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kwaku. Je rappelle donc épouse Nguessan Aya Priscilla. Nous allons nous arrêter là, malheureusement, vu le temps qui nous est imparti pour ce magazine, mais rassurez les auditrices, auditeurs qui nous suivent que, compte tenu donc du sujet, nous allons prendre rendez-vous la semaine prochaine, mais juste rappeler donc avec vous, nous abordions donc comme sujet aujourd'hui, dans le cadre de mon droit au quotidien, des droits des personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Et rappelez donc que selon les données les plus récentes, datant de 2023 Spectrum, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 407 595 personnes vivant avec le VIH, tout âge confondu, avec une séroprévalence de 1,82% chez les 15 à 49 ans. Alors, Mme Kwaku, je rappelle donc au chargé de mission plaidoyer à l'ONG Espace Confiance, juriste spécialiste donc des questions des droits humains, plaidoyer et du genre. Nous allons donc dire stop pour aujourd'hui et puis nous allons retrouver la semaine prochaine pour mettre un peu l'eau à la bouche de nos auditrices et auditeurs. Leur indiquer donc la semaine prochaine à votre compagnie. Nous parlerons toujours en matière de droit, de cas comme une personne séropositive qui serait abusivement licenciée. Qu'est-ce que cette loi lui offre donc comme recours? Mais nous parlerons aussi de quatre catégories d'infractions que cette loi touche. Et puis nous verrons aussi les insuffisances que présente cette loi, comment l'améliorer aussi. Voilà. Merci déjà pour ce premier rendez-vous, Madame Kwaku.
C'est moi qui vous remercie.
Quant à vous, mes auditeurs, nous vous disons merci de votre fidélité, de votre belle écoute. Restez donc en notre compagnie pour la suite de nos programmes. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de ce numéro de Mon Droit au quotidien consacré, nous le rappelons, aux droits des personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire.
C'était Mon Droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Boutin.